Alors, quand on est en train d'étudier la cinquième brachah de l'Amida, celle concernant la tchouva, on a commencé la dernière fois en disant à la fin de cette bracha, où on demande à Hachem achevez la bonne Torah. Amène-nous dans une tchouva, un repentir complet envers toi. Binchra explique complet, c'est quoi? Que les quatre lettres du nom de Dieu que nous avons endommagé, soit entièrement réparé. Pourquoi quatre? Ces quatre lettres du nom de Dieu correspondent aux quatre niveaux de gravité des péchés qu'on a capacité, Chas v'Shalom, de transgresser. On a commencé à expliquer déjà deux de ces degrés. Le premier sont les lois positives, ensuite les lois négatives. Les deux plus graves sont le troisième niveau, c'est les lois qui sont sanctionnées par le karet ou la mort du Bedin. Qu'est-ce que c'est que le karet? Le karet, c'est un retranchement de l'âme qui fait que la personne meurt à l'âge de 60 ans et certaines fois, c'est marqué dans la Torah, karet et ari, elle meurt sans enfant. Là, je l'explique, s'il a des enfants, ben, il meurt. S'il n'a pas d'enfant, ben, il n'en aura pas. Il mourra 60 ans sans enfant. Et le Rambam écrit que c'est la vengeance la plus dure de Dieu. Il n'y a pas de sanction plus dure que cela, le karet. Certains interdits du karet sont sanctionnés par la mort du Bedin, c'est-à-dire qu'à l'époque du temps, quand il y avait deux témoins qui disaient à quelqu'un « ne fais pas ça, car si tu le fais, tu seras puni de la peine capitale X », il y avait quatre sortes de peines capitales, on devait lui dire laquelle, il dit « je sais, mais néanmoins je le fais », juste après qu'on lui ait dit ça, alors à l'époque du temple, deux témoins cachèrent, allaient au temple et témoignaient, et la peine capitale a été prononcée. C'est très rare que sur le terrain ça arrivait. Il y avait un tribunal de 23 personnes qui faisaient tout, 23 juges, tout pour ne pas devoir prononcer une peine capitale. Le Talmud dit qu'un Sanhedrin, donc un tribunal rabbinique qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans, était considéré comme un Sanhedrin meurtrier. Donc, disons, la peine capitale, c'est une chose de plus depuis 2000 ans déjà. Il n'y a plus de peine capitale qui soit prononcée parce que le tribunal devait siéger dans le temple pour pouvoir prononcer des peines pareilles, et voyant que ça commençait à aller de plus en plus mal, plus de gens devenaient redevables de peine capitale, ils ont préféré se retirer du temple, ne plus juger là-bas dans l'endroit qui s'appelle Lishkat Hagazit, et vu qu'ils jugeaient hors du temple, ils n'avaient plus le droit de prononcer une peine capitale. Donc ça fait plus de 2000 ans qu'il n'y a plus de peine capitale dans le peuple d'Israël. Ceci dit, contrairement au Texas par exemple, où je crois qu'il y a 4000 peines capitales qui ont été prononcées depuis les 50 dernières années, enfin, études dans tous les sens là-bas. Parce que des fois, les gens voient dans la Torah, on fait ça, on est lapidé, on fait ça, bon, on nous prend pour des primitifs, l'Amérique, c'est tout beau, tout bien. C'est vraiment le contraire. Je me suis dit qu'en passant, j'allais vous lire maintenant quels sont les interdits qui sont sanctionnés par le karet. C'est des choses qui peuvent arriver, chas v'shalom, qu'on sache de quoi faire attention. Qu'est-ce qui est karet, qu'est-ce qui n'est pas karet. Alors, Rambam ici nous dit dans le Chotch Gagot, alors je vous les lis. 1. Et d'abord, il y en a, si je me souviens bien, c'est 27, c'est ça. Il va nous le dire tout de suite. 23. 23 péchés qui sont des relations interdites, relations sexuelles interdites. Alors, je vais vous le dire rapidement. Celui qui a une relation avec sa mère, avec sa belle-mère, avec sa grand-mère du côté maternel, avec la mère de sa belle-mère, avec sa fille, avec la fille de sa fille, avec la fille de son fils, avec la fille de sa femme, qui n'est pas sa fille. Sa belle-fille. Pas la belle-fille. La belle-fille en français, c'est le mari de son fils. Une femme qui a eu un enfant, pas avec toi, tu te maries avec elle. Et tu as une relation avec elle. Ou au contraire, tu étais marié avec elle, après tu es marié avec quelqu'un d'autre, elle a eu une fille, tu as une relation avec cette fille-là. Celui qui a une relation avec la fille de sa fille, avec la fille de son fils, avec sa sœur qui est la femme de la... qui est la fille de la femme de son père. C'est ta sœur par ton père, pas par ta mère. Celui qui a une relation avec la sœur de son père, avec la sœur de sa mère, donc les tantes, avec la sœur de sa femme, la belle sœur, avec la femme de son père, qui n'est pas sa mère donc, avec la femme du frère de son père, la tante, mais la femme de l'oncle. Ensuite, celui qui est en relation avec la femme de son fils, donc la belle-fille, avec la femme de son frère, avec une femme mariée.
La femme de son frère, parce que c'est pour le Yiboum, c'est ça, non ?
Une fois que le frère est mort, sans enfant. Si on a doute, on ne fait pas. Relation avec une femme mariée. Relation avec une femme nida. En parenthèse, les gens croient qu'une femme nida, c'est quand elle a sa menstruation. C'est faux. Une femme qui a sa menstruation une fois dans sa vie, elle a nida toute sa vie, tant qu'elle n'a pas fait le processus qui aboutit au mikvé.
Si mon frère divorce de sa femme, je n'ai pas le droit de me marier avec elle.
Ils sont corrects. Oui, absolument. Celui qui a une relation avec un homme, une relation avec son père, c'est donc, on peut avoir des fois deux interdits carrettes. Une femme mariée, par exemple, la femme de son fils, qui a une relation avec elle, alors c'est et en tant que femme mariée et en tant que femme de son fils. Relation avec son père, relation avec un homme, relation avec le père, le frère de son père, donc son oncle, relation avec un animal. Que ce soit un homme ou une femme, donc un mâle ou une femelle animale. Voilà. 23 interdits. Plus encore 17 autres qui ne concernent pas les interdits sexuels. La Vodazara, donner de sa descendance au molaire, c'est un truc qui n'est plus actuel, c'était une Vodazara qui existait en ce temps-là. Les prêtres du Moloch, Moloch, d'accord, en français, le Molaire, prenait deux feux, et passait entre les deux feux des enfants. C'est une sorte de service d'Avodah Zara, donc d'idolâtrie qu'on ne fait pas, qu'on n'a pas le droit de faire. Baal Ov. Baal Ov.
C'est Balpère ?
Non. Baal Ov, c'est médium. En relation avec un mort.
Si c'est du faux, par exemple, je fais ça.
C'est du cinéma.
Du cinéma.
Non, c'est pas. C'est un autre interdit, du mensonge. Neva dal, ce que tu veux.
On parle du vrai médium qui. Voilà. Une
vraie relation avec le mort. Voilà. Idoni, c'est une chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui. C'est un certain os qui s'appelle, d'un animal qui s'appelle Yadora, qu'on mettait dans la bouche et commençait à parler. Il y a dans les anciennes bandes dessinées vieilles, on voit des. Je crois que c'était pas Gargamel, le magicien des Schtroumpfs, non. Je crois. Mais sinon, dans les autres bandes dessinées comme ça, il y a encore ce truc qui. On prend un certain os qu'on mettait dans la bouche et il se mettait à parler, cet os-là. Chilou Shabbat, transgresser le Shabbat. Transgresser Yom Kippour, enfin Melacha Yom Kippour. Manger ou boire à Yom Kippour. Manger du notar. Notar, c'est un sacrifice. Tous les sacrifices, il y a deux sortes de sacrifices. Un sacrifice qu'on doit manger jusqu'au lendemain matin, et un autre qu'on peut manger jusqu'au lendemain soir. Une fois que la période est passée et qu'il y a encore de la chair de sacrifice, cette chair-là s'appelle notar. En manger, elle est sanctionnée par le karet. Manger du Hametz à Pessah. Manger du chalev, ce sont certaines graisses animales, principalement dans la partie arrière de l'animal, c'est pour ça qu'on ne mange pas d'habitude les parties arrière, parce que c'est dur de reconnaître toutes ces sortes de graisses. Le sang, c'est seulement le sang dans lequel, enfin, on n'a pas le droit de boire du sang, de manger du sang, peu importe. Tous les sangs sont interdits, mais interdit qui est sanctionné par le karet, un sang qui est sanctionné par le karet, c'est celui par lequel l'âme sort. C'est quel sang ? Quand on est à la gorge d'animal, au début il y a quelques gouttes qui sortent, après il y a un jet, ça commence à couler comme un tuyau bien fourni, rouge. Tant que c'est rouge, ce n'est pas encore le sang de l'âme. Quand ça devient bleu, enfin déjà le sang plus foncé, là c'est le sang de l'âme. Et ce sang-là, c'est sanctionné par le karet.
On boit du sang normal, c'est quoi ?
C'est quoi du sang normal ?
Quand on se coupe la laine, des fois, on
le sang. Le sang de l'être humain, c'est des rabananes. Ce n'est pas de Horaïta. C'est un interdit à banane. C'est pour cela que si c'est extérieur aux dents, alors on ne mange pas. Mais si c'est intérieur, tu peux. Alors, t'as croqué dans une pomme, puis tu vois, t'as des gencives qui sont un peu sensibles, puis tu vois, tout d'un coup, t'as des traces de sang sur la pomme. Ça, il faut nettoyer, tu peux pas le manger. Mais ce que t'as dans la bouche déjà, c'est à l'intérieur des dents, tu peux avaler sans problème. Le pigoule, ce que le pigoule. Le pigoule, c'est une chair de sacrifice qui a été sacrifiée avec une pensée contraire à ce qu'on doit penser. C'est-à-dire, ou bien on a pensé le manger après le temps imparti, comme j'ai dit auparavant, un sacrifice, on a un certain temps pour le manger, ou jusqu'au lendemain matin, ou le lendemain soir. Quelqu'un dit, je vais le manger après. Rien qu'on pense, il a mangé juste après. Mais il dit, il pense quand il y a un sacrifice. Le penser, le manger après son temps imparti, ça devient pigoule. Ou bien, quand il égorge, il pense le manger hors des parties imparties, parce qu'on ne peut pas le manger n'importe où. Les Kodesh et Kodesh, il y a deux sortes de sacrifices, les saints des saints et les saints. Les saints des saints, on peut le manger que dans le temple, et les saints, on peut le manger que dans Jérusalem. Lui dit, je vais aller manger avec mes copains mon sacrifice à Tel Aviv, d'accord. Bien que pour finir, on lui dit, non, mon cher ami, il faut manger ça ici. Il le mange ici, vu que lorsqu'il a sacrifié, il a pensé cela, le sacrifice n'est pas valable, il est appelé pigoul. Et si on en mange, on est sanctionné de l'interdit de karet, de la sanction de karet. Celui qui sacrifie des animaux hors du temple, des animaux qui sont sanctifiés. C'est quand aujourd'hui, pour s'amuser, il y a une seule vache. Cette vache, elle est hola. Voilà, elle est un... Oui, c'est un péché très grave, c'est sanctionné par le karet. Il dit donc, sur une certaine vache, il dit, voilà, cette vache maintenant devient un sacrifice à Dieu, une hola, un holocauste. Après, il va et l'égorge. D'accord? C'est interdit. On s'amuse pas à ça, à sanctifier des animaux. Il faut faire attention parce qu'il y a une chose qui est courante, c'est les animaux, il y a des animaux qui sont sanctifiés de naissance de façon automatique. C'est lesquels? Les fils aînés. Chaque aîné d'une vache ou d'une chèvre ou d'une brebis, si c'est un mâle, alors elle est saint. Et si on l'égorge, alors on égorge un sacrifice hors du temple. Et ça, il sort karet. Alors, aujourd'hui, ce qu'ils font tous, ils font une choutfoute, ils font une association avec un goy. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Sinon, si vraiment quelqu'un il a son petit troupeau à lui, d'accord, il a pas d'association avec un goy, et ça ne peut pas, il le laisse vivre, voilà, jusqu'à ce qu'il meure. S'il reçoit un défaut, tout un traité de Bechorot qui parle des aînés, d'accord, à l'époque, celui qui avait un aîné était très 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 embêté parce qu'il faut le nourrir toute sa vie et puis ça te casse les pieds. Alors qu'est-ce qu'on fait s'il reçoit un défaut qui le rend impropre au sacrifice? Alors on peut l'égorger, le manger, mais on ne peut pas sa chair le vendre dans une boucherie normale. On doit faire un peu différemment. Pas le droit non plus ni de le tondre, ni de le traire, ces animaux-là. Donc c'est très embêtant. Alors que faisaient les... On devait le garder pour nous, avec nous, je crois, un mois ou trois mois, après le donner aux Kohen. Les Kohanim, qui avaient comme ça des bêtes, ça les embêtait, d'accord. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'arrangeaient pour qu'est-ce qu'ils aient un défaut. Par exemple, si la lèvre fendue devient impropre au temple, ils pouvaient le manger. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Très souvent, ils mettaient un bon plat comme ça à côté d'un fil barbelé, enfin d'un buisson avec des... Non, on n'a pas le droit de faire ça, justement. Mais c'est parce que le Kohanim était suspecté de faire des choses pareilles. On n'a pas le droit de faire un moum, de faire un défaut dans une bête qui est sainte. Mais néanmoins, ils étaient suspectés de cela. Si tout seul se l'est fait, alors Baruch HaShem. Celui qui, pas sacrifie donc, qui égorge, mais qui brûle sur un autel, hors du temple, un sacrifice. D'accord? Il dit, voilà, moi je fais maintenant un sacrifice à Dieu. Il égorge, il fait un interdit. Et ce copain va et le brûle sur un autel. Il a fait, bon, on fait un autel à Dieu, comme ça, c'est aussi sur karet. Celui qui fait l'huile d'onction. Il y a une huile d'onction avec laquelle on oint les rois d'Israël et les Kohanim Gdolim, les grands prêtres. On n'a pas le droit de la faire. Celui qui en fait, c'est Issour Karet. On n'a pas. Pardon, dans la Torah, c'est marqué là exactement comment on l'a fait.
Ceux qui ont vraiment besoin pour faire.
Ah voilà, ce que je veux dire, c'est si on l'a fait pour l'utiliser à une fin. Une fin pas véritable. Ça, on n'a pas le droit. Si c'est pour. Si maintenant le Mashiach y vient, alors ça, on peut le faire, il n'y a aucun problème. celui qui fait la ktoret et celui qui s'enduit de l'huile d'onction, on parle de celle qu'a fait Moshe Rabbeinu. Pour trouver la petite fiole, elle est quelque part cachée, hein, ça a l'air sympa, hop, il en met sur lui-même, c'est Issour Karet. En tout, 43 interdits, sanctionnés par le Karet, monsieur. Que Dieu nous en préserve, dans le propre là-bas. Alors, si on a péché, et on veut réparer un Karet, qu'est-ce qu'il faut ? Là, il faut déjà trois choses. La tchouva suspend, Yom Kippour suspend, ce qui explique totalement, c'est les souffrances. Souffrance. Maintenant, quelle souffrance ? C'est pas écrit lesquelles. Dieu jugera. La Gemara dit, ça peut être simplement mettre la main dans sa poche pour charger deux pièces. Tu n'en trouves qu'une, tu dois remettre ta main dans ta poche. T'imagines la souffrance. Ou bien, tu as mis ta manche à l'envers. Ah zut, d'accord, ta chaussette à l'envers. Hop, il faut l'enlever, la remettre. C'est une souffrance. Super casse-pied.
Si la personne n'est pas exemple, handicapée, c'est une souffrance pour elle, mais...
Une fois t'es précis, t'as mis ta main de
c'est une souffrance, c'est casse mais tu dis zut, non? Tu dis pas zut quand ça t'a un truc pareil.
Ah ouais, ça
nous retient. C'est une petite souffrance, Baruch HaShem. Ça aussi, ça peut suffire.
C'est une souffrance, alors.
Pardon?
Tout est une souffrance, alors.
Ouais, tout ce qui est bête, inutile, qui est c'est une mitzvah. On fait une souffrance, on fait une mitzvah avec souffrance. Alors, c'est du mérite, mais c'est une souffrance pour rien, c'est une souffrance. Ou bien, chassé shalom, toute autre souffrance terrible, d'accord, une chimiothérapie et autres, Dieu nous en préserve. Il y a un palliatif à la souffrance. D'abord, il y a une chose qui empêche la souffrance de venir, c'est la tzedaka. Quand on a l'argent de tzedaka, ça empêche la souffrance de venir. Ce n'est pas à la place, c'est-à-dire que tu auras toujours une dette de souffrance que tu paieras ou ici ou là-bas. Mais en tout cas, ça retarde la souffrance, c'est la tzedaka. Il y a un palliatif, c'est-à-dire c'est une chose qui est à la place des souffrances, étude de Torah. Et tu auras la seule chose qui peut purifier et réparer un péché à la place des souffrances. Parce que si les gens viennent nous voir maintenant avec des péchés graves, ils nous disent, voilà, j'ai péché, j'ai fait ci et ça, qu'est-ce que je dois faire pour réparer ? Ben Noari a donné des séries de jeûnes à faire en fonction d'un péché, en fonction des noms de Dieu qui ont été endommagés. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère, il doit jeûner 151 fois de suite.
Il mange le soir.
Il mange le soir. On peut jeûner, il y en a qui permettent de jeûner une fois en payant tzedaka l'argent que ça nous aurait coûté de manger pendant 151 jours. Zeral Batala, seulement 120 volontaires, 84. Relation avec une femme Nida, 82. Relation avec une femme non juive, 216. Relation avec une femme mariée, 325. Voilà. Sur Shabbat, je crois que c'est dans les 400, quelque chose comme ça. Bon. Alors, si quelqu'un vient nous dire maintenant, voilà, j'ai péché, on lui dit, elle dit, voilà, moi j'ai péché pas mal dans ma vie, j'ai fait le calcul, j'en suis à 100 000 jours de. 100 000, ce qui peut être très très habituel, hein, quelqu'un ne fait pas Shabbat, etc. 100 000 jours de jeûne, qu'est-ce que je fais ? Alors que ce soit 100 000 jours, ou 100 jours, ou un jour, on va dire à cette personne-là, étudie beaucoup de Torah. La Torah, elle purifie beaucoup mieux que les jeûnes. À ce point-là.
Mais la
tchouva,
ça fait pas
me dépasser tout. Oui, la tchouva, elle enlève le péché, mais elle ne répare pas. C'est un statut de sadique de nouveau, mais ce n'est pas réparé. Il y en a qui disent, un avis qui dit que si c'est une tchouva qui fait avec amour de Dieu, alors ça répare aussi, ça répare tout. Pas clair. En tout cas, la meilleure chose, de toute façon, même pour un Baal Tshuva, sous la peine d'étudier beaucoup de Torah, non seulement c'est une mise en soi énorme, plus que tout, mais on voit que c'est ce qui répare le plus. Il n'y a aucune chose qui peut réparer autant que l'étude de Torah. Bien sûr, assidu, même quand on est fatigué, même quand c'est... Voilà, ça c'est une étude de Torah qui répare beaucoup. Bezrat Hashem. Donc ça c'est le troisième niveau. Il y a encore deux péchés qui sont sanctionnés par le Karet, dont le Rambam n'a pas parlé. Il a parlé que ceux qui sont issus d'une loi négative, on a trouvé une loi négative, un ne pas, alors il y a ces 43 interdits qui sont sanctionnés par le Karet. Il y en a encore deux qui sont issus d'une loi positive. On n'a pas fait une loi positive. Un, la Brit Mila. Quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, tant qu'il ne fait pas la Brit Mila, il est en situation de Karet. Un avis qui dit que s'il meurt, on va faire la Brit Mila. Les deux avis existent. Le deuxième loi positive, c'est le Korban Pessah, le sacrifice pascal, lorsque le temple a été construit. Il fallait l'amener le 15, le 14 du mois de Nissan. Si on avait raté, on était impur, on était loin, on a un sursis, c'est le 14 du mois de Iyar, pas Sarcheni. Mais si dans les deux cas, on aurait pu et on ne l'a pas fait, alors on est sanctionné par le karet, Dieu nous en protège. Voilà, ça c'est les issur karet, dont quelques-uns seront sanctionnés par la mort du Bedin, quelques-uns d'autres ne le sont pas. Par exemple, une relation avec sa mère, c'est sanctionné par la mort du Bedin, une relation avec sa sœur, c'est pas sanctionné par la mort du Bedin, d'accord ? Tout dépend qu'elle. Ensuite, quatrième niveau, le plus grave de tout, Chilul Hashem. Chilul Hashem, profaner le nom de Dieu. Comment on fait ça? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails maintenant. Il y a trois sortes de profanation du nom de Dieu. C'est pas karet. C'est pas karet. Mais c'est plus, au niveau de la réparation, c'est plus dur. Parce que et Yom Kippour, et la Tchouva, et souffrance ne suffisent pas, il faut la mort. Et d'après un avis, on peut faire la tshuva du contrepoids, faire du kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu beaucoup, ça répare si on est honoré.
Ça arrive d'insulter le bon Dieu par la vie.
Hein,
ça arrive des fois d'insulter le bon Dieu.
Pas d'insulter, insulter c'est extrêmement grave. Insulter, c'est mort du bedding, c'est une loi, c'est sanction de mort sans carrette, hein. C'est une peine capitale. Pas d'insulter, je parle maintenant de... Profaner, c'est quoi profaner le nom de Dieu? Il y a trois sortes de façons de profaner le nom de Dieu. Une, dans les cas, je ne vais pas maintenant les citer, mais dans les cas où d'après la Torah, on doit préférer mourir plutôt que transgresser un péché, et on a transgressé le péché, et on n'est pas mort, alors on a profané le nom de Dieu. Si quelqu'un nous dit par exemple, fais une bise à ta fiancée, on est le jour du mariage, mais il n'a pas encore ta femme une demi-heure avant, ou je te tire une balle dans la tête. Il faut dire, tu tires.
Aujourd'hui, même aujourd'hui, là, cette heure-là, quelqu'un vient de dire ça?
Ouais. C'est un peu tôt aujourd'hui pour se marier, non, à 9h.
Disons. Non, c'est-à-dire qu'on va autour de moi, vraiment, que ouais. Présent, quelqu'un est en train de se marier, on vient de dire ça là aujourd'hui en 2015, il dit, ben, faites ce que vous voulez, moi,
bien
je
sûr. Bien sûr. Okay, le prophète se faire tuer. Alors, s'il a fait la bise, il n'a pas transgressé l'interdit grave de faire la bise à sa femme, à sa fiancée, parce qu'il était à nous, parce qu'il a fait malgré lui. C'est pas, on l'a obligé. Mais il a transgressé l'interdit grave de Chilul Hashem. Il a dû préférer se faire tuer plutôt que de transgresser ce péché-là.
Si maintenant on dit oui, mais le mec il change des mots. Alors on dit tire, et après il fait bon, ok, je tire pas. Alors.
Ah, c'est bien. Alors, t'as fait la mitzvah et t'as gagné la vie en plus. Voilà.
Ça veut pas dire que la Chilul Hashem a été refusée dans ces cas?
Je pense pas. T'aurais pas le mérite d'être mort à Chilul Hashem. Mais tu auras fait la mitzvah de Kiddush Hashem, c'est clair.
On doit se poser des questions.
C'est-à-dire
le mérite de mourir à Kiddush Hashem.
Hein ?
On appelle le mérite de mourir à Kiddush Hashem.
Ouais, mais tu as le mérite de faire la grande mitzvah de Kiddush Hashem quand même. Dieu, il a préféré une fois, ça arrive une fois dans la Shoah, un type, il était dans une usine comme ça, il avait des grandes scies circulaires, puis il travaillait pour les nazis, puis un jour un officier s'est énervé, il dit bon, maintenant je vais te tuer maintenant. Il a posé sur le truc avec la grande scie comme ça qu'elle le coupait en deux. Il a vu le type, il était tout à coup en situation de bonheur extraordinaire qu'il allait faire la grande mitzvah de Kiddush Hashem. L'officier nazi le voit comme ça. Ah, tu crois que je vais faire ce plaisir? Allez, dégage. D'accord, et il n'a pas eu la chance de mourir à Kiddush Hashem, comme tu dis. Bon, mais il a continué à vivre, il a pu nous raconter cette histoire-là. Donc, ça, c'est une des trois façons de faire du Chilul Hashem. Quand on meurt dans les cas, on aurait dû, quand on vit dans les cas, on continue à vivre dans les cas, on aurait dû accepter de mourir. On aurait dû accepter de mourir. C'est compliqué tous les cas, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail, j'ai fait des cours sur le sujet, on pourra les consulter à l'occasion. Deuxième cas, c'est si on fait une action contraire au désir de Dieu, un péché, sans être poussé par une envie physique de le faire. Ça veut dire, par exemple, j'ai maintenant devant moi deux steaks. Un kasher, un taref. Les deux sont le même prix, les deux sont tout aussi bons. Et moi, je dis ces histoires-là de kasher, kasher, j'en ai rien à faire, je prends ce qui me plaît. Et on prend le taref.
C'est encore plus
grave. Ça veut dire que pour nous, la parole de Dieu n'a aucune valeur. C'est ça, profaner le nom de Dieu. Même donc tout seul dans sa chambre, quelqu'un qui fait un péché alors qu'il n'est pas poussé par une envie physique de le faire, c'est le Chilul Hashem. Troisième cas, quand on fera une chose en public, qui est contraire à la Torah, au contraire aux mœurs de l'endroit dans lequel on est, alors c'est deux choses différentes, hein, ou bien une chose qui est contraire aux mœurs dans l'endroit où on est, mais qui n'est pas contraire à la Torah. Par exemple, s'il y a des mœurs, par exemple, de ne pas le mettre le doigt dans le nez, d'accord ? Et toi, tu vas devant les gens, tu fais comme ça, tu commences à te curer le nez, et les gens se disent, regardez-moi, ce religieux mal poli, tu as fait du Chilul Hashem. Si par contre, tu vas dans une soirée mondaine, et puis on te dit bonjour monsieur, et tu donnes pas la main, parce que, excusez-moi, ma religion m'interdit de donner la main à une femme, on te dit, mais c'est une bande de talibans fanatiques, roménistes, d'accord, moyenâgeux, radicalistes, etc. Là, on a fait du Kiddush Hashem, parce qu'on a agi d'après la Torah. Ce que je dis maintenant, c'est que si on fait une chose qui est contraire aux mœurs de l'endroit, c'est considéré comme du Kiddush Hashem, c'est pas une chose qui est contraire à la Torah, c'est une chose qui va, que la Torah n'interdit pas de ne pas se mettre les doigts dans le nez, d'accord ? Ou bien, si on fait une chose qui est contraire à la Torah, en public, Chilul Hashem, d'accord ? Si quelqu'un, par exemple, un rabbin un peu libéral, va donner la main, elle a fait du Chilul Hashem. On va dire, comment ça se fait que vous donnez alors que le rabbin là-bas ne donne pas ? Bon, moi je suis plus moderne, d'accord ? Je suis plus ouvert d'esprit, d'accord ? Elle a fait du Chilul Hashem, il a transgressé le nom, il a profané le nom de Dieu qui a interdit de faire cela. Voilà, messieurs, les quatre niveaux de gravité. Donc, quand on dit dans la prière, Hashivenu betshuva, Achzirenu betshuva shlema lefanecha, ramène-nous en repentir total devant toi, c'est qu'on répare les quatre lettres du nom de Dieu qui ont été endommagées par ces quatre types de péchés. Baruch Adonai, Elohim Amen.